Bonsoir et bon début de semaine à tous. Le Front commun pour le Congo appelle à une réévaluation de la marche du pays et de la coalition. C'est ce qui ressort d'une réunion d'urgence et importante de la conférence des présidents de cette plateforme tenue hier dimanche à Kinshasa. Cela fait suite aux tensions récurrentes ces dernières semaines entre les FCC et le CASH, de partenaires au pouvoir. Ces tensions se traduisent notamment par la brève interpellation samedi dernier du vice-premier ministre et ministre de la Justice par le parquet général près de la Cour de cassation, mais aussi par des manifestations violentes à Kinshasa contre les propositions des lois pour la réforme de la justice. Des manifestations qui ont ciblé essentiellement les cadres du FCC. Quelle analyse faire de ces tensions persistantes entre CASH et FCC? Les deux partenaires devraient-ils envisager une cohabitation au pouvoir? C'est le thème de notre débat de ce soir. Pour en parler, je reçois dans cette émission Dr Didi Manara, député national et président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Il est aussi coordonnateur des présidents des groupes parlementaires membres du FCC. Monsieur Manara, bonsoir.
Bonsoir madame, je salue également tous les auditeurs de la Radio de la Paix, mais plus spécialement mes frères et sœurs congolais qui fêtent l'anniversaire de l'indépendance demain le 30 juin 2020.
Maître Peter Kazali, député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de la plateforme CASH, il va nous rejoindre dans un tout petit moment, mais aussi dans cette émission, Christian Moleka, analyste et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Monsieur Moleka, bonsoir.
Bonsoir Kellyston, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi et bonne fête d'indépendance à tous les Congolais qui vont nous suivre.
Vous êtes très nombreux auditeurs de Radio Capi à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Patrice Mumbere depuis Butembo au Nord Kivu. La RDC n'est pas une propriété privée de FCC ou CASH. Ils devront faire attention pour la malgouvernance. Le peuple en a marre. Pour Justin Pazou, la coalition FCC-CASH risque de plonger le pays dans une situation chaotique car chaque parti cherche à protéger ses intérêts politiques en faisant souffrir le peuple congolais. Merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radioocapi.net.
Les membres du gouvernement ont exprimé leur indignation pour l'humiliation subie par leur collègue Célestin Tounda en violation des règles élémentaires d'un état des droits. Tout en lui exprimant leur solidarité, ils désapprouvent et condamnent cette arrestation arbitraire. Ils l'ont fait savoir samedi dernier à l'issue d'une réunion convoquée par le Premier ministre à cette épée et à laquelle ont pris part les vice-premiers ministres et ministres d'État. Cet incident grave et sans précédent est de nature à fragiliser la stabilité et le fonctionnement harmonieux des institutions et a provoqué la démission du gouvernement, affirme le Premier ministre dans sa déclaration. On écoute un extrait de cette déclaration justement, lu par Albert Relier, qui est son porte-parole.
Les membres du gouvernement ont relevé que l'arrestation du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ne repose pas sur des faits infractionnels, ne rencontre pas les conditions de la flagrance et viole le secret de délibération du Conseil des ministres. Cet incident grave et sans précédent est de nature à fragiliser la stabilité et le fonctionnement harmonieux des institutions et à provoquer la démission du gouvernement. Le Premier ministre demande solennellement à son Excellence Monsieur le Président de la République de garantir le bon fonctionnement des institutions et d'assurer le respect de l'état de droit, de veiller au respect de toutes les procédures constitutionnelles, légales et réglementaires, notamment les immunités dont sont couverts les membres du gouvernement, ainsi qu'à leur sécurité physique et juridique. En ce qui concerne les délibérations du Conseil des ministres, le Premier ministre demande à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de garantir le respect du secret des délibérations du Conseil des ministres.
Didi Manara, je rappelle que vous êtes député national et président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi coordonnateur des présidents des groupes parlementaires membres du FCC. Le FCC appelle à une réévaluation de la marche du pays et de la coalition. Pourquoi, Didi Manara?
Merci beaucoup, madame. Je confirme que le pays va mal. Nous remarquons, nous, au niveau du FCC, qu'il y a une perte vertigineuse des acquis fondamentaux de démocratie et même des valeurs républicaines. La paix sociale, chèrement acquise, l'unité nationale, la stabilité des institutions et même et plus récemment la passation civilisée du pouvoir au sommet. Tout ça, c'est aujourd'hui mis en mal. Et bien pourquoi ? Madame, voilà pourquoi nous disons que nous, au FCC, nous devons tout réévaluer. Si je prends l'évaluation au niveau de l'institution Parlement, vous savez, madame, que tout récemment, notre collègue Jean-Jacques Mamba, député du MLC, il n'est même pas du FCC, il prend l'initiative comme député de poser la question au premier vice-président de notre chambre pourquoi il a fait cette déclaration selon laquelle le Parlement consommerait 7 millions de dollars pour l'organisation d'un congrès, ce qui est faux d'ailleurs. Alors comme réponse, notre collègue est mis en prison, arrêté chez lui à la maison à 6 heures du matin devant sa femme et ses enfants en culotte. Comme si cela ne suffisait pas, lorsque nous organisons l'élection pour remplacer le premier vice-président qui a été débouté par ses collègues au niveau du perchoir, nous allons remarquer que notre enceinte du Parlement, pourtant inviolable, est menacée par les militants de l'UDPS. Sous la sécurité de la force publique, je parle ici de la police, empêchant les députés d'accéder à leur hémicycle pour faire leur travail. C'est quand même extraordinaire et c'est très grave dans une république démocratique comme nous voulons l'appeler aujourd'hui. Si je prends l'institution gouvernement, madame, vous venez de le dire vous-même, avant-hier, nous avons vécu un phénomène assez extraordinaire, hors du commun, où le premier vice-ministre, ministre de la Justice, qui a été arrêté chez lui, pourquoi ? Parce qu'il a exercé ses fonctions comme ministre de la Justice. Pour avoir répondu à une question lui posée par le Parlement sur les avis et suggestions sur une proposition de loi lui soumise par un député.
Il a répondu ça à la balle du Conseil des ministres, ce qu'on lui reproche.
Mais si on lui reproche ça, madame, pourquoi est-ce qu'on ne reprocherait pas également le ministre de l'Agriculture qui a également fait de la même manière, ainsi que le ministre des Droits humains, sur la loi portant sur les handicapés? Parce qu'ils ont aussi adressé les mêmes correspondances de la même forme au Parlement et n'ont jamais été arrêtés. Et ensuite, qui est le premier, madame? Le premier ministre, qui est le chef du gouvernement, a dit que, parce qu'il semblerait qu'il aurait été arrêté pour faux et usage de faux. Mais le premier ministre a dit que ce document-là n'est pas un faux. Le premier ministre, qui est le premier? Est-il un premier plus responsable puisque le premier ministre? Je ne pense pas. Alors, nous pensons vraiment là qu'il y a eu débordement et c'est la naissance d'une dictature qui est plus loin, de loin, méchante puisque celle de ce que nous avons vécu à l'époque officielle.
Docteur Didi Manara, est-ce qu'on peut dire que toutes ces crises ou ces tensions persistantes sont les signes que les deux coalitions FCC et CACH n'ont pas une vision commune pour la RDC?
Je veux saluer ici déjà, dans 6 mois, je crois que nous allons totaliser 2 mois dans cette coalition. Je peux dire aujourd'hui que vous savez, la coalition, madame, c'est une forme de gouvernance qui est très nature. Hein. Partout au monde, on a prouvé que la coalition, lorsqu'il y a 2 visions différentes, cette coalition-là, c'est plus que ça marche. Mais nous, chez nous au Congo, ça fait déjà bientôt 6 mois, bientôt 1 année et demie, et que nous avançons quand même. Et c'est notre particularité au Congo. Mais nous pensons qu'il y a notre partenaire qui ne fait pas suffisamment d'efforts pour faire régner la paix au pays. Tenez, madame.
Mais, le président, mais votre Kabila partenaire vous pointe aussi du doigt, docteur Didi Manara. Le CACH estime que le FCC voudrait bloquer la vision du chef de l'État.
Mais écoutez, madame, vous savez, notre autorité morale, le président Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, a hérité de ce pays de la manière dont vous connaissez. 1+4, c'est-à-dire, lui, président, il a fait des concessions avec 4 belligérants, occupant chacun un espace hein, de notre terre, de la République démocratique, de notre territoire national. Mais, chemin faisant, il a pris en main ses responsabilités des garants des institutions et des responsables numéro 1 du pays jusqu'à nous conduire vers la démocratie avec l'organisation des 2 élections successives, mais aussi de la passation pacifique et civilisée du pouvoir. Comment vous pouvez dire que le FCC ne veut pas la paix du pays au pays? Je viens de vous parler ici de comment les militants de l'UDPS ont assiégé le Parlement,
c'est comment les militants de l'UDPS ont festoyé lorsqu'ils ont appris que le ministre de la Justice a été mis en prison. Et bien, je vous assure aujourd'hui que le ministre de la Justice est libre.
Merci, docteur Didier Malara. On vous garde encore dans cette émission. On me signale que Peter Kazadi n'est toujours pas en ligne. On espère qu'il va nous rejoindre pour les débats. Christian Moleka, vous êtes analyste et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Quelle analyse vous faites de ces tensions persistantes entre le CACH et le FCC?
Merci beaucoup pour la question. De premier abord, on va constater que la coalition qui aurait dû être un élément de stabilité pour l'action gouvernementale est elle-même source d'instabilité. Et que aujourd'hui, la préoccupation première, ce n'est pas forcément l'intérêt des citoyens congolais, mais ce sont des jeux de pouvoir où les intérêts et les stratégies sont divergents. Parce que c'est ça l'enjeu. L'attelage FCC-CACH est un attelage contre nature, et les intérêts et les stratégies de chaque camp sont opposés, à telle enseigne que c'est le gouvernement qui devient le lieu de confrontation des intérêts et des stratégies différentes de chaque acteur. Si pour le CACH, l'objectif c'est d'anéantir hypocritement le partenaire qui est en face, pour le FCC, c'est l'usure et l'immobilisation. Donc nous avons deux partenaires de façade, mais qui sont au plus profond d'eux en train de se repousser et qui veulent se neutraliser, pas s'auto-neutraliser. Et nous sommes en train de vivre cette tension permanente. Il ne s'agit pas de crise systémique, parce qu'il ne s'agit pas de crise structurelle, il s'agit de crise artificielle qui tourne autour des intérêts divergents. Vous l'aurez aujourd'hui, puis après demain, la coalition va à nouveau se mettre ensemble, assumer le calumet de la paix, puis après 3 mois, il y aura une nouvelle crise artificielle autour des intérêts stratégiques différents, des intérêts différents, mais qui ne garantissent pas pour le pays une stabilité et qui ne garantissent pas pour la population des réponses adéquates à leurs préoccupations.
Est-ce qu'il fallait s'y attendre un peu, Christian Moleka, qu'on assiste très souvent à ce genre de crises, de tensions entre ces deux partenaires qui sont au pouvoir?
Non, c'était vraiment prévisible. Quand on connaît historiquement les tensions qui ont toujours existé entre le PPRD particulièrement et l'UDPS, quand on connaît les trajectoires de ces partis politiques historiquement, cette alliance, c'était un coup de gageur énorme. Mais aujourd'hui, la réalité est en train de rattraper les différents partenaires parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Si pour l'UDPS, c'est de regarder le pouvoir...
Christian Moleka, on a un souci avec votre ligne téléphonique.
Quand on connaît les trajectoires historiques de ces deux formations politiques, on peut comprendre qu'aujourd'hui, on aboutisse à ce genre de contradictions. Parce que ce sont des partis qui sont longtemps regardés en chaîne faïence et qui tentent aujourd'hui de construire... ensemble une coalition, mais qui est équitative, qui est boiteuse. Et par ailleurs, les intérêts stratégiques de chaque parti sont différents. Donc si pour l'UDPS, c'est rester au pouvoir au-delà de 2023, pour le FCC, c'est revenir au pouvoir. Donc il était très difficile d'associer ces deux points de vue.
Par rapport à l'arrestation du vice-premier ministre et ministre en charge de la justice, Célestin Tundaya Kassendé, le PPRD qualifie cet acte des dictatures naissantes plus fortes que celles de l'époque du Zaïre. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, ça c'est la communication politique, il faudrait un peu d'agressivité, mais je pense qu'il faudrait quand même se questionner sur cette façon, ces genres de dysfonctionnements dans le gouvernement. Vous avez un ministre qui prend... un avis technique, mais qui n'est pas discuté au niveau du gouvernement, c'est-à-dire des membres du gouvernement. Pour une question aussi importante qu'ils ne sont pas informés, le chef de l'État n'est pas informé, cela traduit quand même un dysfonctionnement grave. Il s'agit quand même d'une loi qui a soulevé énormément de tollés au niveau de la nation et qui aurait pu passer par un débat au sein du gouvernement. Comment on a, de manière assez insidieuse, on a fait passer un document sans que le gouvernement soit informé? Donc ça veut dire que, de manière collégiale, le gouvernement ne s'y engage pas. Pour une question aussi importante, ça pose problème.
Alors, il y a plusieurs observateurs qui estiment que chaque camp se bat pour ses propres intérêts et la population est complètement oubliée.
Oui, mais parce que lorsque chaque camp développe une stratégie qui ne tient pas compte du temps, parce que le temps, c'est que le peuple attend. Il y a un mandat de 5 ans, nous sommes en 2020, et le peuple jusque-là attend de voir du concret dans son vécu en termes d'emploi, en termes de solutions à ses problèmes. On est en pleine pandémie de Covid, alors qu'on attend du gouvernement des solutions concrètes pour répondre aux chocs économiques qu'on est en train de subir, et à des solutions concrètes sur les vécus des Congolais, sur la société des transports Transco, sur la société Congo Airways, sur le secteur économique paralysé, sur les impôts, sur les questions de loyer. Nous avons un gouvernement qui est à côté de la société, qui est dans des questions partisanes, dans des conflits subjectifs qui ne répond pas aux potentiels des Congolais.
Les auditeurs sont très très nombreux à appeler, à envoyer leur réaction. On va prendre pour vous, docteur Didier Malara, cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
C'est Henri Kaboué. Je vous appelle depuis Lubumbashi dans les Haut-Katanga. La vraie opposition du régime actuel, c'est le FCC. Le président de la République doit prendre cela en compte. S'il veut marcher ensemble avec son opposant, tant mieux. Mais la meilleure des choses, c'est d'avoir une bonne compagnie. Qu'il ne cherche pas à avoir la majorité, car celle-ci est disposée à les nuire. Merci.
Docteur Guilly Manara, comment vous réagissez à ce que vient de dire Henri Kaboué, qui nous appelle depuis Lubumbashi, qui dit que la vraie opposition du régime actuel, c'est le FCC?
Non. Merci, madame. Je ne pense pas que nous soyons en opposition. Nous sommes au gouvernement. Le premier ministre Ilunga Ilunkamba est le nôtre. Donc, nous ne sommes pas dans l'opposition. Nous sommes vraiment dans l'exercice du pouvoir avec le gouvernement où les membres du FCC sont majoritaires. Nous ne sommes pas dans l'opposition. Bien au contraire. Nous remarquons effectivement que nos camarades en face, donc c'est-à-dire nos partenaires en face, c'est-à-dire l'UDPS, le CASH, mais l'UDPS en particulier, se comporte comme la véritable opposition. La preuve, c'est que par exemple au Parlement, lorsque nous sommes en train d'aller voter le premier vice-président qui est membre de l'UDPS, mais l'UDPS descend dans la rue pour empêcher le vote justement de leurs compatriotes de l'UDPS. Et descend dans la rue. Regardez le comportement des militants de l'UDPS. C'est la véritable opposition. C'est-à-dire que l'UDPS s'oppose contre l'UDPS. Alors c'est ce que nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi nous disons, nous devons nous évaluer. Nous devons évaluer la marche des institutions et tout ça. Madame, je me suis en faux à ce que M. Moleka, mon co-débatteur du jour, vient de dire. Il dit non, les choses ne marchaient pas et que le vice-premier ministre n'a pas bien agi, le conseil, donc c'est-à-dire le conseil des ministres n'a pas statué sur ces cas. Mais j'ai dit ici qu'il y a des cas de figure, nous sommes en période de Covid, le ministre de l'Agriculture, le ministre des Droits Humains, qui sont du CASH, de l'Agriculture spécialement, ils ont agi de la même manière. Au regard de l'article 93 de notre Constitution qui dit ceci, le ministre est responsable de son département, il applique le programme gouvernemental dans son ministère, sous la direction et la coordination du Premier ministre. Le Premier ministre lui-même est responsable, le chef du gouvernement. Le chef de l'État n'est pas chef du gouvernement. Hein. Il est chef de l'État, président de la République. Le chef du gouvernement vous dit, il n'y a pas de faux. Le document n'est pas un faux.
Oui, comme le document n'est pas...
Le ministre des Droits Humains. Et madame, je tiens à vous informer et à informer mon collaborateur, mon État aujourd'hui, que la commission des lois du gouvernement, qui a réuni 28 membres, cette commission a voté à l'unanimité. À l'unanimité, les observations faites par le ministre de la Justice et adressées à l'Assemblée nationale.
Le Premier ministre s'est informé.
De quoi parlons-nous, madame? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas arrêté le ministre de l'Agriculture et celui des Droits Humains? Pourquoi? Pourquoi on n'arrête que les ministres de la Justice? Pourquoi? Qu'on nous dise pourquoi? Et le Premier ministre vous dit, ce n'est pas faux. Parce que la flagrance est aujourd'hui utilisée comme une formule magique. Lorsqu'on veut arrêter un ministre, lorsqu'on veut arrêter un député, on dit il y a flagrance. C'est quand même extraordinaire, ça.
Monsieur Didi Manara, est-ce que le Premier ministre était informé de la lettre du vice-premier ministre, ministre en charge de la justice?
Mais quand je vous dis que ce document n'est pas un faux, c'est-à-dire quoi? Parce qu'il s'est exprimé, vous-même, vous avez lu le communiqué du Premier ministre. Il ne peut pas se contredire. Il est professeur quand même de l'université, en économie.
Et à propos de ces lois, justement, pour la réforme de la justice, est-ce qu'elles sont opportunes aujourd'hui?
Elles sont totalement opportunes parce que la façon dont les parquets se comportent aujourd'hui, madame, c'est vraiment à regretter. Vous savez que la Constitution de 2006, à son article 149, rattachait les parquets au pouvoir judiciaire. Mais lorsque cette Constitution a été révisée, l'appendice des parquets rattachés aux juridictions a été supprimé. Cela veut dire que les parquets ne font plus partie du pouvoir judiciaire, et la Constitution énumère bien les membres ou la composition de ce pouvoir judiciaire qui sont la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Haute Cour militaire, ainsi que les cours et tribunaux civils et militaires. Point à la ligne. Donc les parquets y rattachés, cet appendice a été enlevé. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, les parquets ne font plus partie du pouvoir judiciaire. Le parquet, madame, et là je parle sur le plan fonctionnel, dans l'angle fonctionnel de la question. Donc, c'est-à-dire, dans le dire du droit, le parquet ne fait pas partie du pouvoir judiciaire. Le parquet représente l'État.
le parquet représente l'État. Et le parquet est sous injonction du ministre de la Justice. Vous savez, honorable sous d'autres cieux, madame, sous d'autres cieux, je prends la Gambie, je prends les États-Unis, où le ministre de la Justice est à la fois ministre de la Justice, mais aussi procureur général. Pourquoi ? Mais c'est parce qu'au niveau du gouvernement, il y a la politique pénale du gouvernement qui doit être appliquée dans les cours des tribunaux. Et c'est le parquet qui est le représentant du pouvoir. Voilà pourquoi l'injonction du ministre de la Justice est vraiment importante. Il n'y a pas de options positives au niveau des parquets.
Mais il n'y a pas urgence, M. Manara. Cette loi pouvait attendre. Il y a des choses plus importantes et urgentes en ce moment.
Voici l'urgence. Je commence par la ville de Kinshasa avant d'aller en province. Les Koulouna sont arrêtés. 2-3 jours après, on les voit dans la rue. Mais pourquoi cela? Pourquoi ces phénomènes? On doit stopper ces phénomènes, madame. Pourquoi est-ce que les parquets, nos procureurs arrêtent les Koulouna et 2-3 jours après, ils les relâchent? Est-ce que ça, ce n'est pas de la corruption sous-entendue? Je prends maintenant à l'intérieur du pays. Regardez un peu cette histoire d'arrêter les gens et de leur imposer la liberté provisoire sous caution, évidemment, des 500 000 dollars, 1 million de dollars. Et ça, c'est à longueur de journée. Nos parquets ont exagéré et personne ne peut les arrêter. Savez-vous que un magistrat ne peut être arrêté, ne peut être condamné, ne peut être sanctionné que par un autre magistrat? Voilà pourquoi, aujourd'hui, les trois lois, les trois propositions de loi concourent à ce qu'il y ait des passerelles entre le pouvoir en place, c'est-à-dire le gouvernement à travers le ministre de la Justice, et la Cour des cassations, le Conseil supérieur de la magistrature, pour sanctionner justement ces magistrats-là véreux.
Monsieur Manara,
madame, s'il vous plaît, madame.
Allez-y rapidement.
C'est une question fondamentale. Moi-même, j'ai assisté à l'analyse de ces trois propositions de loi. Du début à la fin, je vous signale ici que ces propositions de loi ont été adoptées à presque à l'unanimité dans la commission PAJ de notre Assemblée nationale.
Nous avons appelé la commission.
Nous avons appelé les magistrats, c'est-à-dire les syndicats des magistrats, pour qu'ils viennent nous démontrer où est l'inconstitutionnalité de ces trois propositions de loi. Ils ne sont pas venus, ils ont fui le débat.
Voté à l'unanimité au sein de la commission PAJ par les députés du FCC, parce que ceux de l'UDPS et de l'opposition ont quitté la commission, M. Manara.
Ils ont fui le débat. C'est de l'opposition, ils ont fait des amendements. Et là, je salue sincèrement la présence de l'honorable Toutundula et la présence de l'honorable Sessanga qui ont fait des amendements, qui sont des valeurs.
Je crois qu'on a perdu le docteur Didi Malara à la réalisation. On va essayer de le retrouver. Christian Moleka, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kindu.
Je suis Gentil Muyombo Mwananyingi depuis Kindu dans la province du Maniema. À mon humble avis, les deux partis doivent mettre de l'eau dans leur vin en privilégiant le dialogue pour une résolution pacifique de leurs problèmes, car rien ne sert en ce moment de rompre la coalition, chose qui risquerait de déstabiliser davantage la quiétude de la population.
Christian Moleka, réaction, est-ce que finalement ces deux partenaires ne devraient pas se séparer pour la bonne marche du pays? Christian Moleka? Je crois qu'on a perdu Christian Moleka. La réalisation va essayer de le retrouver. Alors, on me signale plutôt qu'à la place de Maître Peter Kazadi, on aura le professeur Jean-Claude Chilumbayi. Il est député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de la plateforme CASH. Professeur Jean-Claude Chilumbayi, le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, appelle à une réévaluation de la marche du pays et de la coalition. Qu'est-ce que vous en pensez?
La réévaluation de la marche du pays, c'est un problème de tout Congolais qui peut la souhaiter, mais j'estime qu'il ne faut pas la subjuguer et en faire un problème d'intérêt partisan. Si le FCC pouvait se contenter de dire qu'il appelle à la réévaluation de la marche de la coalition, c'est son droit le plus légitime, encore qu'on ne peut pas imaginer que l'on réévalue la marche de la coalition, parce que tout simplement les institutions de l'État telles qu'établies font normalement leur travail et s'attellent au quotidien aux tâches qui sont constamment prévues dans leur rôle. Ce qui est ici, par exemple, lorsqu'on parle de propositions de loi, mais nous l'avons dit, même si l'honorable Manara peut dire que ces propositions de loi ne touchent en rien à la constitution, ce qui ne peut pas d'ailleurs justifier dans ce sens que leur application cohérente voudrait foncièrement ou qu'on touche à la Constitution. Mais ce qui est ici en jeu, c'est lorsque l'on tente de confondre le fait que la justice, qui est une institution qui veut agir de manière démocratique, comme toutes les autres institutions le font à ce jour, parce qu'elles ont été libérées et soustraites de la manière de faire dans laquelle elles ont été confinées, et qu'ils viennent dire qu'il s'agit de la manipulation, qu'il s'agit du dysfonctionnement de la coalition. La coalition n'a pas été faite pour subjuguer la justice, la coalition n'a pas été faite pour lier les mains des juges et soumettre les juges au pouvoir des politiciens. Ça, ce n'est pas notre désir. À ce jour, dire qu'il faut réévaluer la marche de la coalition, c'est bien. Nous pensons aussi trouver dans cette évaluation les positions de rappeler à nos alliés qu'il faut laisser la justice fonctionner librement, les possibilités aussi de dire qu'il faut que le Parlement fonctionne, que les lois soient adoptées de manière neutre. Parce que ce n'est pas le FCC qui devrait éditer cet exploit-là. Le FCC devrait le reconnaître courageusement qu'en ayant créé une constitution, en ayant taillé une constitution à la mesure d'un président en fonction qui savait éternel, aujourd'hui ils en souffrent. Ils avaient donné des pouvoirs exorbitants, des pouvoirs excessifs au président de la République parce qu'ils avaient individualisé la Constitution de la République. Aujourd'hui, devrait comprendre que le pouvoir que le président de la République utilise, c'est le pouvoir qu'ils ont taillé sur mesure à la hauteur d'un président de la République qui était en fonction, qui savait et éternel. Cette Constitution l'ont modifiée en 2011. Ils ont touché à l'article 220, pourtant intangible, en 2011, en réduisant le pouvoir des provinces et des entités territoriales centralisées, notamment en soumettant les institutions provinciales, notamment l'Assemblée provinciale, à la dissolution et le gouverneur à la révocation du chef d'État, c'était parce qu'ils en tiraient profit. Pourquoi pensent-ils qu'aujourd'hui ils doivent encore faire la même chose, comme si le ministre de justice, à faveur de qui ils sont en train de tailler, le nouvel pas sera éternel. Qui leur dit que son ministre ne sera pas demain celui de l'UDPS, c'est qu'ils ne vont pas se plaindre des mêmes tares qu'ils sont en train de condamner aujourd'hui dans leur peu outrageant contre la justice de notre pays.
Vous estimez donc, professeur, que ces lois sont inopportunes pour le moment. On n'a pas besoin de ces réformes.
Je trouve qu'il n'y a pas d'opportunité et surtout pas besoin pour la nouvelle République que nous voulons démocratique, que nous voulons fonder, une République institutionnalisée qui soit solide. Il n'y a pas d'opportunité que des lois soient en train d'être encore à ce jour taillées à la hauteur des hommes. Le FCC devrait retenir les leçons du passé, j'insiste. Le FCC souffre de cette réalité aujourd'hui. Il a une majorité confortée à l'Assemblée dont il ne sait pas jouir parce qu'il avait défiguré la Constitution en voulant créer un monarque au sommet de l'État.
Professeur, comment vous expliquez ces tensions récurrentes ces dernières semaines entre FCC et CAF et pourtant vous êtes deux partenaires au pouvoir?
Non, moi je ne trouve pas qu'il y ait de bruit. Il n'y a pas de bruit parce que je ne voudrais pas que l'on dise qu'il y a conflit dans la coalition lorsque les institutions de la République, qui du reste ne sont pas sous l'autorité de l'UDPS ni du CASH, moins encore du chef de l'État, font leur travail. Comment voudrez-vous qu'un allié dise à un autre lorsque la justice applique les lois de la République qui ont été des lois dans l'ensemble ou dans la plus grande majorité adoptée par l'ancien régime incarné par le FCC, que le président de la République devienne aujourd'hui l'autorité à aller dire à la justice, non, lorsqu'il s'agit des gens du FCC, ne faites pas. Mais le président de la République leur a donné un modèle. Il s'est abstenu de donner des injonctions à la justice sur le sort de son propre allié, son directeur de cabinet. Le président s'est abstenu, il leur a donné un message clair de montrer qu'il n'a pas vocation à envie d'interférer dans le travail de la justice. Donc, je crois que nos alliés, pour l'intérêt supérieur de la nation, de notre peuple, qu'ils clament si souvent, devraient regarder cette question en face et différencier le travail propre aux institutions de la République de celui ou de l'activité particulière de la coalition qui ne doit pas incarner la République parce que nous passerons. La coalition FCC-CASH, si elle terminera son mandat ici et ne sera pas éternel, de ce que je sache.
Professeur Jean-Claude Tshilumbayi, avant de passer la parole à notre analyste, vous allez répondre brièvement à Thomas Lipanda qui nous écrit depuis la ville de Kinshasa.
À mon avis, je pense que ces actions sont pour ses intérêts, non pas pour la population. Les lois proposées par l'honorable sont inacceptables, d'autant plus que ces lois vont à l'encontre de la Constitution. Et une fois que cette proposition passerait à l'Assemblée nationale, vu la majorité du FCC, ça va passer. Les deux partenaires devront plutôt envisager l'intérêt de la population au lieu de se poignarder pour le pouvoir. J'en appelle le calme et le respect de ces deux partenaires autour de la Constitution.
Cet auditeur pense que, puisque le FCC est majoritaire à l'Assemblée nationale, ces lois vont passer et il en appelle au calme et au respect de la Constitution.
Madame, la Constitution, elle a été adoptée par son peuple dans des conditions que vous comptez, et qu'à ce jour, l'expression globale de cette population dans toutes les provinces du pays, ce n'est pas seulement à Kinshasa où on estime qu'on a parlé de Wewa, tout ça, c'est pas seulement à Kinshasa. Dans toutes les provinces de la République, le peuple congolais comme un seul homme a dit non, c'est ça aussi, sa souveraineté dans l'État qu'on ne peut pas remplacer par celle de la volonté d'un groupe d'individus. Pour autant que notre peuple les a refusés, je crois qu'il était moralement politique que l'on renonce à ces lois. Cet acharnement qu'exprime l'honorable Manara sur ces lois révèle de quelque chose de louche. Pourquoi est-ce qu'il devait s'obstiner alors même qu'il y a risque d'implosion du pays, notre peuple n'en veut pas. Ce qui a un piège, ce qui a un problème, c'est qu'il y a une volonté délibérée de vouloir muser la magistrature et ça, personne l'accepterait. Et s'ils ont encore une petite idée derrière la tête de croire qu'il y aura du recul en cette matière-là, je crois qu'ils ne l'obtiendront pas.
Merci, professeur Jean-Claude Tshilumbayi. Les deux partenaires, FCC et CASH, devraient-ils déjà envisager une cohabitation au pouvoir? C'est la deuxième et dernière partie de notre émission. Avant de l'aborder, on va prendre cet auditeur qui nous écrit depuis Kindu. Pour vous, Christian Moleka, je rappelle que vous êtes analyste et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC.
Je suis Gentil Muyombo Mwananyingi depuis Kindu de la province d'Imanema. À mon humble avis, les deux partis doivent mettre de l'eau dans leur vin en privilégiant le dialogue pour une résolution pacifique de leurs problèmes, car rien ne sert en ce moment de rompre la coalition, chose qui risquerait de déstabiliser davantage la quiétude de la population.
Monsieur Moleka, votre réaction? Monsieur Moleka, vous êtes en ligne? On a encore perdu Christian Moleka. La réalisation va essayer de le rappeler. Docteur Didi Manara, député national et président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi coordonnateur des présidents des groupes parlementaires membres du FCC. Les deux partenaires devraient-ils déjà envisager une cohabitation au pouvoir? Vous allez aussi réagir aux propos du professeur Jean-Claude Tshilumbayi.
Je salue le professeur Tshilumbayi, mais je salue également son indépendance d'esprit par rapport à la question de l'heure. Mais lorsqu'il a reconnu que Monsieur Minaku, l'honorable Minaku et Sakat, les deux honorables, n'ont pas violé la Constitution parce qu'il n'a pas parlé d'inconstitutionnalité de ces trois propositions de loi, il a dit que ce n'était pas opportun. Ça, je salue. Parce que je martèle ici en disant que les trois propositions de loi ont respecté, bien entendu, la Constitution. Et d'ailleurs, c'est le retour au respect de la Constitution. Parce que, au terme de l'article 149, les parquets ne font plus partie du pouvoir judiciaire. Je ne parle pas du système judiciaire, c'est la sémantique. Je parle du pouvoir judiciaire. J'invite vivement le professeur Tshilumbayi de regarder sa Constitution, l'article 149. Il verra que les parquets ne font plus partie du pouvoir judiciaire. Et ils ne jouissent pas de l'indépendance dans la fonction de dire le droit. Ça, j'insiste et je m'appelle parce que le gouvernement a sa politique judiciaire et c'est le parti qui doit appliquer cette politique judiciaire du gouvernement. Et ça se passe partout au monde. Je l'ai dit ici, aux États-Unis, le procureur général est à la fois ministre de la justice. Ça, c'est pour appliquer la politique judiciaire, la politique pénale du gouvernement. Voilà. Comme cela est dit, Je remonte ici par rapport à la question de la coalition et de la cohabitation. Nous, au niveau du FCC, nous disons ceci. Nous sommes pour cette coalition-là. Et nous saluons, je l'ai dit à l'entrée, que bientôt nous allons fêter les 2 ans de l'existence de cette coalition, même si c'est un mariage contre nature. Mais nous remarquons, nous, qu'au niveau des institutions, j'ai parlé de l'institution Parlement. Le Parlement a été assiégé par l'UDPS. Ils sont même prêts à encore aller assiéger, une fois de plus, cette enceinte. Et nous avons entendu des cris comme quoi, laisser les policiers tuer les députés. Pas scandé par les militants de l'UDPS. Ça, c'est quand même extrêmement grave. Et le procureur, qu'est-ce qu'il fait comme travail? Au lieu d'attaquer les assassins potentiels comme cela, non, ils s'attaquent aux députés, ils s'attaquent aux ministres qui exercent leurs fonctions régaliennes, les reconnues par la Constitution. Donc nous disons, nous sommes prêts à réévaluer notre marche, parce que nous pensons vraiment notre partenaire en face, et à la fois au pouvoir et dans la rue. Alors, et nous disons encore une fois, madame, que la rue n'est pas l'apanage seul de l'UDPS. Et nous sommes pour la paix, parce que la guerre est destructrice. Vous savez, la MONUSCO, qui est ici depuis des lustres, a dépensé autant de milliards. Le peuple congolais a perdu beaucoup de sang. Le peuple congolais a tant souffert. La démocratie est en marche dans notre pays. Nous, RCC, nous avons organisé 2 fois des élections. Il y a eu passation de pouvoir. Nous voulons que ces acquis-là soient maintenus au pays. Voilà pourquoi nous disons, si nos collègues, nos partenaires en face, ne sont pas capables, parce qu'ils commencent à montrer les limites d'incapacité de la gestion de la chose publique, s'ils ne savent pas maintenir le pouvoir, parce que je vous dis ici, en 2023, aujourd'hui, madame, qui peut aller adhérer aujourd'hui à l'UDPS? Dis-moi si une personne peut aller aujourd'hui faire son adhésion à l'UDPS. Il n'y a personne qui peut le faire. Nous disons, nous sommes pour la coalition, mais s'ils ne savent pas, s'ils continuent avec ça là, avec ces comportements-là, plan tout droit vers la cohabitation, tel que le dit dans la Constitution.
Merci Didi Malafa.
Les partis de pouvoir majoritaire doivent gérer et nous sommes prêts à gérer cette
question. On va vous redonner la parole pour conclure, Didi Malafa. Justement, les canalistes et commentateurs de la dynamique des politologues de la RDC, on l'a encore perdu. Professeur Jean-Claude Chilumbayi, vous avez suivi Dr Didi Manara. Est-ce que CASH et FCC devraient-ils déjà envisager une cohabitation au pouvoir? Parce qu'on a l'impression que ça ne marche pas, c'est un mariage contre nature. On l'a entendu dans ces débats. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait continuer avec cette coalition ou il faut passer à la cohabitation?
D'abord, le recours au droit comparé, plus précisément au système américain par l'honorable Manara, c'est une expression claire des inquiétudes qu'il renferme. Moi, j'aurais voulu qu'il fasse référence au système romano-germanique, plus précisément au système français, dont nous sommes de l'empreinte ici, pour nous dire comment ça évolue cette dépendance du parquet au pouvoir exécutif. Je crois que les choses ont vraiment évolué dans ce pays qui nous a vendu sa marque, la France. En ce qui concerne la question précise de la cohabitation de la coalition, moi j'estime que l'UDPS ou le CASH n'a pas trop d'inquiétude quant à ça. C'est du droit d'un partenaire. Lorsqu'il peut estimer que les choses ne vont plus bien, de se décider de choisir les modalités de collaboration, de cohabitation. Mais ici, moi, je note la grande volonté du chef de l'État qui se dépasse, qui se surpasse. Vous avez vu, par exemple, que en ce qui concerne les ordonnances sur la nomination des mandataires à la Gécamines, ces ordonnances sont restées une année inappliquées. Alors que personne ne les avait attaquées en justice, il n'y a pas eu un recours contre les abus décriés, entre guillemets, à propos de l'excès de pouvoir ou de l'usurpation de pouvoir ou de violation quelconque de loi par le chef de l'État en signant ces ordonnances. Tant qu'il n'y avait pas de recours contre ces ordonnances et qu'il n'y a pas eu de saisine du juge, nos partenaires ont de manière délibérée et anarchique bloqué ces ordonnances pendant une année et demie. Et que vous avez vu que la grande volonté du chef de l'État à vouloir participer activement à la reconstruction de ce pays avec ses amis à qui, bien évidemment, nous avons beaucoup de choses, nous, à reprocher, y compris notre peuple. Le chef d'État fait qu'il s'est plié à cette volonté anarchiste de vouloir bloquer ces ordonnances. C'était parce que déterminé à voir le train arriver, à voir le pays être gouverné dans la quiétude. Donc, il n'y a pas cette volonté-là. En tout cas, le président Tshisekedi ne l'a pas jusqu'ici exprimé. Il veut bien continuer à travailler avec nos partenaires du FCC. Il veut bien continuer à régler le problème de la République conformément à la Constitution avec nos partenaires du FCC,
Mais lorsqu'il s'agira de vouloir utiliser la coalition pour pouvoir mettre les intérêts de notre avenir dans nos poches, ça ne passera pas, ni à l'UDPS, ni dans notre population. Il faut que la coalition reste au centre des intérêts profonds de notre population. Et le reste ne passera pas. Mais ce qui concerne la cohabitation, si le FCC estime qu'il juge normal que l'on cohabite, moi je ne trouve pas de mal, parce que c'est aussi une formule prévue par notre constitution, ça ne sera ni de la provocation ni de l'injure pour nous autres. Nous allons devoir cohabiter, et conformément au principe de la cohabitation, on va le faire. Lorsque ce principe ne serait pas respecté, que nous penserons que le pays est bloqué, il y a d'autres mécanismes de règlement. L'arbitrage du chef de l'État pourrait intervenir, on dissout l'Assemblée, qu'on ait posé la question au peuple s'il veut que les choses continuent de cette façon-là. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous pensons qu'il est temps que de part et d'autre, que ça soit chez nous au CASH, que ça soit au FCC, qu'on leur remette un peu d'eau dans notre vin, parce que notre peuple n'a pas besoin de tout cela. Notre peuple a besoin des réponses à ses pommes de courant, à ses pommes d'eau. Je pense qu'en tant qu'humain, en tant que citoyen, en tant que personne civilisée, nous avons encore devant nous les possibilités pour nous regarder yeux dans les yeux et pouvoir remonter ou rencontrer ces difficultés afin d'éviter que notre peuple ne soit éternellement dispersé.
Professeur Tshilumbaï, on vous accuse, vous de l'UDPS, d'être et au pouvoir et dans l'opposition. Vous êtes situé où? Vous êtes dans l'opposition ou vous êtes au pouvoir?
Je crois qu'il est beaucoup plus responsable que nos partenaires reconnaissent que leur agir ne semble pas rencontrer l'assentiment de notre population. Ceux qui vont dans la rue ne sont pas forcément de l'UDPS, et qu'il n'est pas interdit à ceux de l'UDPS de manifester, y compris si c'est le chef de l'État qui venait de poser des actes qui ne plaisent pas à notre population, qui ne rencontre pas ses intérêts supérieurs. Aujourd'hui, c'est le temps de nous regarder. Chacun est libre de s'exprimer parce que la démocratie est là, mais aussi que nous devons agir et ne penser que République. Le reste ne nous permettra pas de marcher ensemble. Le bilan, c'est Tshisekedi qui le fera. Nous n'avons pas accepté qu'ils viennent faire un bilan sur leurs habits perpétuels et auxquels ne veulent pas renoncer.
Merci.
Voilà pourquoi nous devons avancer de manière responsable et ne voir que l'intérêt supérieur de la vie.
Merci, professeur Tshilumbaï. On va considérer cela comme votre conclusion. Docteur Didi Malara, député national et président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale, votre conclusion.
L'UDPS a montré ses limites dans la gestion de la chose publique. Tenez madame, nous leur avons laissé, le président Kabila leur avait laissé dans les trésors publics plus de 1,5 milliard de dollars, mais ils ont dilapidé cet argent, vous avez suivi vous-même le procès de 100 jours, des 40 millions de dollars pris par tel individu, 15 millions, 60 millions, 100 millions, c'est extraordinaire, on n'a jamais vu ça au pays, ils ont montré leurs limites. Nous nous disons, de quel peuple ils parlent? Ici, ceux qui assiègent l'Assemblée, ce sont les Wewa. Les Wewa, on connaît les mots, tout ça vient. Ce sont les motards, ce sont les membres de l'UDPS, les combattants. Donc nous nous disons, nous nous remettons en tout cas à la sagesse des deux personnalités, le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, et le président Joseph Kabila honoraire, qu'ils se rencontrent, qu'ils essayent un peu d'évaluer, parce que nous allons leur remettre notre évaluation, pour que la paix règne dans le pays. Parce que
merci.
Je le souligne ici, et je prends le peuple congolais à témoin, la vengeance ou la violence n'est pas l'apanage de l'UDPS. Je le souligne. Et la guerre ne profite à personne.
Merci, voilà. Didi Malara. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais qui m'a aidé à la préparer. Guy Maté qui était à la réalisation, mise en onde de Sylvain Baouiri. Merci à Axel Gontrou qui a supervisé ce programme. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Restez prudents et respectez les gestes barrières pour lutter contre la pandémie COVID-19. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.